Chapitre 31. Léonie avait failli vomir lorsque la langue râpeuse de Lucius s'était insinuée dans sa bouche. On ne pouvait pas tricher avec le corps. La seule solution, c'était de se retirer loin en elle-même, comme elle avait l'habitude de le faire lorsque la douleur ou la honte était trop forte. Mais si rien ne l'en empêchait, l'obligeait à rester consciente, lucide. Elle avait une âme en charge. Elle devait réussir à glisser la main dans la poche de la veste du paon et le mettre hors d'état de nuire. Elle devait accepter ses mains, sa langue, sa peau, son odeur. Elle devait le rendre fou de désir, lui faire perdre tout contrôle. Il n'était pas très difficile à enflammer, Lucius. Il haletait déjà comme un chiot assoiffé. Il dégrafait son pantalon et se battait avec son caleçon pour dégager le gourdin dressé entre ses cuisses. Par chance, malgré les gouttes de sueur qui perlaient à son front, il n'avait pas songé à retirer sa veste. Il se montrait maintenant fébrile, se perchait comme un coq énervé sur Léonie, lui écartait sans ménagement les jambes, brûlait de la posséder. Elle faillit se débattre, puis se raisonna. Elle le considéra comme un client ordinaire, un porc. Il la pénétra d'un seul coup, coupé en deux, buisson d'épines dans le ventre, poussa un grognement de satisfaction, se maintint quelques instants au fond d'elle, commença à bouger le bassin, lentement au début, puis de plus en plus vite. Maintenant, maintenant. Léonie ravala ses larmes et son envie de désarçonner le paon. Il la saccageait, il la blessait, possédée par son désir. Elle était pleine de lui, emplie d'une chair détestable. Elle approcha la main de la poche de sa veste tout en se creusant pour l'enferrer dans ses tréfonds. Ses doigts agrippèrent une crosse lisse et froide. « Sors-le doucement. Doucement. » Repère le cran de sûreté, là, ce petit truc. Pousse-le vers le haut. Bien. Bien. « Cyriane, il me fait mal, il est gros, il me coupe en deux. »« Je sais, Léonie, tes douleurs sont miennes. Pose le canon sur sa nuque. Presse la détente. » Lucius soufflait, grognait, le paon, le porc. La fin était proche, il allait tirer sa salve. Léonie approcha doucement le pistolet de son crâne. « Je n'y arrive pas, je tremble trop. » »« Pense à toi, Léonie. » Pense à nous. Dirige le canon vers sa nuque. Elle accompagna les coups de boutoir de plus en plus amples et puissants du paon. Réussit enfin à poser le canon juste au-dessus de son cou. Il ne s'en rendit pas compte. Il continua de la besogner, happé par l'irrésistible fil qui se dévidait de son bas-ventre. Flingue-le avant qu'il jouisse, ce salaud. Ne reste pas dessous. La balle risque de le traverser. Léonie se décala légèrement. Son index se crispa sur la détente. Elle crut qu'elle n'aurait pas la force. Le métal s'enfonça d'un coup sec. La détonation éclata, coup de tonnerre, odeur de poudre, onde de chaleur, un craquement. Le crâne du paon éclaté, du sang gicla sur la main de Léonie, puis une autre substance, plus épaisse, gluante, de la cervelle peut-être. Lucius se figea dans un dernier coup de rein. De l'air s'échappa de sa bouche entrouverte, comme d'un pneu crevé. Il bascula sur le côté, roula du matelas sur le sol, se figea sur le dos. Yeux révulsés, un dernier soubresaut, un dernier souffle, un gargouillement prolongé, une auréole de sang autour de la tête, des taches sur son costume clair, ridicule avec son gourdin à l'air et ses jambes entravées par son caleçon et son pantalon. Tu l'as eu, Léonie. Lève-toi, vite, on n'a pas le temps à perdre. Elle n'y parvenait pas, contaminée par la mort qu'elle venait de donner. Glacée, elle n'était pas Tania, la panthère, elle ne savait pas tuer de sang-froid. L'arme dans sa main pesait des tonnes. « Ta tante va revenir d'un moment à l'autre. » Elle se secoua, lâcha le pistolet. « Reprends-le, il peut nous être utile. » Elle le ramassa, se releva, buisson enflammé dans le ventre, muscles tétanisés, douleur réveillée en sursaut, enjamba le paon, dont le teint virait au café crème, presque aussi clair que son costume, sortit de la pièce, titubante, guerrière, nue et couverte de sang de son ennemi. Sang sur son épaule, sang sur son sein, sang sur son bras. Se rua dans l'escalier. Gravit les marches 4 à 4. Vite, piquez des fringues à la hyène et foutre le camp. Fonce! Léonie grimpa au premier, se dirigea vers la chambre de tante destinée, s'arrêta. Qu'est-ce que tu fous, bordel? Cette porte, l'ancienne chambre au cauchemar. Ne va pas là-dedans, ça ne servirait à rien. Ça nous ferait perdre du temps. Tu as raison, Cyriane, j'ai mal au ventre, il m'a saccagé. Ça me brûle. L'odeur du paon, ombre maléfique. Elle entra dans la chambre de la hyène, passa dans le dressing, choisit, fébrile, les fringues les moins colorées, les moins voyantes, pas évident, un pantalon ample et blanc, un pull léger vert, pas pas de sous-vêtements, elle ne supporterait pas leur contact. Elle opta pour les chaussures les plus plates, au moins 8 cm de talon quand même. Les enfila, un peu grandes, un peu larges. Redescendit, ouvrit la porte d'entrée du pavillon. Deux ombres noires et feu se ruèrent sur elle, les Doberman de Lucius. Ils la reniflèrent bruyamment. Elle craignit qu'ils ne la reconnaissent pas. Ils se contentèrent de lui lécher la main, puis, attirés sans doute par les odeurs qui montaient du sous-sol, ils dévalèrent l'escalier de la cave. Léonie sortit du pavillon, referma la porte derrière elle. Il ne faisait pas très chaud. Elle aurait dû prendre une veste. Elle glissa le pistolet dans la poche de son pantalon, deuxième fois qu'elle s'évadait de la maison de tante destinée, à Yenne. Une fois, de nuit, une autre, de jour. Elle courut à perdre haleine, les muscles aussi durs que la pierre. Se jeta dans les rues, comme elle se serait réfugiée dans un labyrinthe. Pas facile de se déplacer à Paris sans argent ni pièce d'identité. Prendre le train de banlieue sans payer en jouant à cache-cache avec les contrôleurs. Même chose dans le métro. Et enfin, déambuler dans les rues en fuyant discrètement tout ce qui porte un uniforme. Tout ça avec les vêtements empruntés à tant de destinées qui ne lui allaient pas. Les hommes, jeunes ou vieux, se demandaient visiblement pourquoi une fille comme elle portait des fringues aussi nazes.
« Je t'ai vu dans une vitrine. Effectivement, on dirait un clown. »
Merci, Cyriane, tu sais faire des compliments aux femmes.
De rien, de rien.
Voilà ce que je te propose. D'abord, il faut savoir si le translateur a été déménagé. Peut-être qu'on trouvera Johannes sur place. Ça m'étonnerait, vu l'état dans lequel Lucius et l'autre l'ont abandonné. On peut toujours essayer. Ils lui ont écrabouillé la face, mais ils ne lui ont pas tiré une balle dans la nuque. La scène ne cessait de hanter Léonie. Le poids du corps sans vie du pan, son sang visqueux sur sa main et son poignet, sa vie qui s'en allait, sa flamme qui s'éteignait. Elle n'en éprouvait pas de remords, elle restait seulement glacée par le saisissement soudain de Lucius, comme s'il avait emporté une partie d'elle dans l'au-delà. Il lui avait laissé un souvenir douloureux entre les cuisses. Elle n'osait pas faire pipi malgré une envie de plus en plus pressante. « Si on ne trouve personne dans le 12e, on ira chez moi. J'ai une Mastercard à l'appartement, elle est encore valide. Je te donnerai le code, tu pourras tirer du fric et t'acheter d'autres vêtements. Après, on essaiera de savoir s'ils ont déplacé cette satanée machine et où ils l'ont planquée.
Comment ?
Des coups de téléphone à donner à deux ou trois titans de ma connaissance. Tu parleras par ma voix, ils ne me croiront pas. Je te fais confiance, Léonie. Tu sauras être convaincante.
Personne dans le 12e.
Les pluies avaient lavé le trottoir du sang et des dents de Johannes. Le bâtiment délabré n'avait plus de porte d'entrée, arrachée. À la place, un ruban fluo de sécurité et une pancarte indiquant que l'immeuble frappé d'alignement allait bientôt être démoli et que, sur le site, s'élèverait dans 18 mois une résidence de luxe. Comme si le laboratoire secret des titans n'avait jamais existé. La vitesse à laquelle les déménageurs avaient fait place nette sidéra Léonie et son passager.
Va voir à l'intérieur.
Mais je risque...
Rien du tout. Il n'y a plus personne là-dedans.
Peut-être qu'ils ont laissé mon corps dans un coin.
Ça m'étonnerait, mais allons tout de même vérifier.
Léonie s'assura que personne ne déambulait dans la rue avant de se glisser sous le ruban et de s'introduire dans le bâtiment. Elle reconnut la salle d'attente, bien que vidée de ses fauteuils et de sa table basse. De même, les couloirs avaient perdu leur habillage métallique et leur sas de sécurité. Elle gagna sans difficulté la pièce où s'étaient opérés les transferts. Trois des quatre murs étaient toujours recouverts de leur carrelage blanc, mais la cloison noire et alvéolaire qui séparait le corps d'origine du corps d'emprunt avait disparu, les deux salles n'en formant désormais plus qu'une. Léonie ne remarqua aucun vestige de l'activité qui s'y était déroulée. Pas une seringue, pas un gant, pas un petit bout de coton. Seule la propreté, insolite dans un tel contexte, rappelait que les locaux n'étaient pas abandonnés depuis très longtemps. L'air était imprégné d'une forte odeur de chlore. Je n'en reviens pas, ils ont tout désinfecté, ils n'ont laissé aucune empreinte génétique, aucun indice. Je ne suis même plus certain que tout ça a un jour existé.
Bien sûr que ça a existé.
Qu'est-ce que tu ferais en moi sinon ?
Ton corps n'est pas là en tout cas.
Complètement idiot de ma part de croire qu'ils auraient pu l'abandonner ici. Ils ont dû l'emporter dans leur nouveau bunker. Il faut qu'on appelle Johannes.
Il n'est peut-être pas en état de répondre.
Allons chez moi. Tu pourras utiliser mon téléphone fixe.
Pas grand monde dans le métro. Peu de passagers, pas de contrôleurs.
Ils arrivèrent à l'appartement de Cyriane sous une pluie battante. Incroyable comme le temps pouvait changer en quelques minutes. Un vent violent s'était levé. Les nuages s'étaient rassemblés comme une armée en campagne et déferlaient au-dessus de la ville en crachant leurs premières gouttes. Léonie était trempée lorsqu'elle entra dans l'appartement. On l'y attendait. La jeune Blanche, la maîtresse de Cyriane. Et Ex-maîtresse.
Elle n'a pas un comportement d'ex, mais d'amoureuse, c'est une femme qui te le dit.
Bah, elle dit elle-même qu'elle me préfère à mon père.
Elle cherche seulement à te rendre jaloux, idiot. Affalée dans le canapé, grignotant des biscuits apéritifs, Aurèle fixait d'un air morne les images qui se succédaient sur l'écran plat. Elle leva sur Léonie un œil vitreux, gonflé, rougi, comme si elle avait pleuré. Une forte odeur d'alcool flânait autour d'elle. Sur la table traînait une bouteille de vodka aux trois quarts vide. Un ricanement éclata comme une bulle de ses lèvres.
« Tiens, tiens, voilà. Voilà la gardienne de l'appartement. »
Des mots sortaient de guingois de sa bouche.
« Je t'attendais, les... Léonie, c'est ça ? Ton prénom est aussi ringard que tes vêtements. Tu as des nouvelles de Cyriane ?»
Dis-lui la vérité. Elle ne me croira pas. Il faut la persuader. Elle peut nous être utile. Elle a son permis, une voiture, elle nous fera gagner du temps. Je croyais que les voyages dans les corps d'emprunt devaient rester clandestins. On n'a pas le choix, Léonie. Moi, je trouve ringard de les fringues de ta tante, mais sûrement pas ton prénom. Je ne te crois pas. Je suis peut-être idiot, mais pas menteur. Enfin, pas sur ce coup-là.
Pourquoi tu réponds pas, Léonie ?
J'ai des choses importantes à vous dire. Et vous n'êtes pas en état d'entendre quoi que ce soit. Vous devriez prendre une douche pour vous dessouler. » Aurèle lui retourna un regard furibond.
« T'es qui, toi, pour me donner des ordres ?»
Dis-lui qu'elle recevra des nouvelles de Cyriane quand elle aura pris sa douche et bu un café. Léonie répéta mot pour mot, d'une voix ferme, la suggestion de son passager. Aurèle se redressa. L'intérêt avait supplanté la colère dans ses yeux vitreux.
« Qu'est-ce que t'aurais à me dire sur Cyriane ?»
Plantée devant le canapé, l'air buté, Léonie ne répondit pas.
« C'est à toi de prendre une douche !»
reprit Aurèle avec une moue.
« Tu pues je sais pas quoi ?»«
Je le ferai après. En attendant, je fais le café. » Léonie se dirigea vers le coin cuisine sans plus prêter attention à son interlocutrice. Elle versa de l'eau dans la cafetière, du café dans le filtre, et lorsqu'elle pressa l'interrupteur de la machine, elle entendit Aurèle se lever et se diriger d'un pas incertain vers la salle de bain.
« Bon, alors qu'est-ce que t'as à me dire ?»
Aurèle était restée en peignoir après sa douche. Manière de montrer à Léonie qu'elle était la maîtresse en titre du propriétaire des lieux. Léonie en avait été quitte pour enfiler un t-shirt de Cyriane qui lui tombait sur les genoux. Installée de chaque côté du bar, elle buvait une tasse de café accompagnée de toast. La mine d'Aurèle s'était déplissée. Ses yeux avaient recouvré en partie leur éclat, ses cheveux encore humides, se déversait dans son cou. À nouveau, Léonie se sentait laide, insignifiante. « Tu es folle. Je te trouve aussi, voire plus jolie qu'elle. Tu te moques de moi ? Regarde ses cheveux et regarde les miens. Regarde sa peau et regarde la mienne. Regarde ses mains et regarde les miennes. Regarde ses yeux et regarde les miens. Et toi, regarde comme elle te regarde. Elle crève de jalousie. » Léonie vida sa tasse.
« Ça va vous paraître incroyable.
Et pourquoi tu la vouvoies ? Elle te tutoie, elle. »«
J'ose pas. » »«
Tu dois la tutoyer. Tu cesseras de te sentir inférieure à elle. Elle cessera de se sentir supérieure à toi. » Ça va te paraître réprobation dans le regard d'Aurèle qui ne protesta pas. « Incroyable. Mais c'est Cyriane qui parle à travers moi. » La surprise dans les yeux d'Aurèle se teinta presque aussitôt d'incrédulité. D'un signe agacé, elle indiqua à Léonie de poursuivre. « Dis-lui que je suis en toi, enfin, que ma conscience est en toi. On lui expliquera ensuite le secret du translateur des titans. » Cyriane, enfin, sa conscience, ou son âme, est en moi.
« Qu'est-ce que c'est que ces conneries ?»
Léonie raconta à Aurèle l'histoire des titans, de leur machine, des voyages extracorporels. Elle n'avait pas besoin de chercher ces mots. Elle prêtait sa voix à Cyriane, une expérience étonnante, déstabilisante dans un premier temps, à laquelle elle finit par s'habituer. « Tu m'as demandé pourquoi je t'avais vendu à Johannes. Tu as ta réponse maintenant. Il m'avait promis un voyage ultime, que seuls les titans pouvaient expérimenter. Et je devais d'abord te conduire dans son lit, c'était sa dernière condition, ma dernière épreuve. Je ne pouvais pas savoir qu'il se comporterait avec toi comme un monstre. Alors, je t'ai fait boire cette saloperie chimique pour que tu ne te souviennes de rien. » Pas très honorable, je sais, mais si je ne satisfaisais pas le caprice de Johannes, je restais à la porte de la confrérie et je n'aurais jamais eu accès au voyage extracorporel. Aurèle écoutait sans dire un mot, pâle, les mâchoires serrées, laissant à ses yeux verts et or le soin d'exprimer ses sentiments, scepticisme, surprise, dégoût, colère, mépris, peur. Elle était visiblement ébranlée. Qui d'autre que Cyriane pouvait connaître cette histoire avec Johannes? Qui d'autre que lui aurait pu rapporter ces détails? De temps à autre, elle fixait Léonie avec horreur, comme elle aurait contemplé une bête hideuse échouée dans l'appartement. Et puis, tu as voulu porter plainte? On t'en a dissuadé, les titans, là encore. La confrérie a des relais dans tous les ministères. Je vais même t'avouer un truc. J'avais bel et bien foiré mes examens de fin d'année, mais comme il y a quelques titans dans le conseil d'administration de l'EESS, ils m'ont arrangé le coup. J'ai donc effectué un premier voyage dans un corps d'emprunt, et j'ai trouvé ça tellement fabuleux que, contrairement aux règles, j'ai voulu aussitôt recommencer. On s'est arrangé avec Johannes. Sans la sécurité habituellement associée au transfert, il avait besoin de fric, je l'ai payé de la main à la main, tout pour lui. Le laboratoire a été déménagé je ne sais pas où. Johannes a été agressé devant la porte du bâtiment. Léonie enlevée par le copain de sa tante. Bref, tout a dérapé. Voilà la situation. Je suis piégé dans le corps de Léonie. Nous ne savons pas où est mon corps d'origine, ni si Johannes est toujours vivant. Léonie, elle, n'a pas de papier, elle est clandestine. Elle risque l'expulsion immédiate si elle est arrêtée par les flics. Aurèle avala une tasse de café tiède, secoua la tête, se leva et fit quelques pas dans le salon.
« Impossible de gober un truc pareil ! Impossible !»
Elle se retourna brusquement.
« Tu as entendu quand je lui ai parlé de ton père ?»«
Évidemment. C'est moi qui ai suggéré à Léonie de te demander si tu avais couché avec lui. » Elle se rapprocha de Léonie, toujours assise au bar, et la dévisagea un long moment. « Cyriane, c'est vraiment toi dans le corps de cette fille ? Comment aurait-elle pu entrer dans mon appartement si je ne lui avais pas donné les codes ?»«
C'est de la folie ! De la folie ! Comment peut-on ?»
Se foutre dans des situations pareilles ? Ta curiosité, Aurèle. Je voulais voir le monde à travers d'autres yeux.
Quel intérêt ? Tes yeux ne te suffisent pas ?
C'est une expérience fabuleuse. On ne peut pas comprendre tant qu'on ne l'a pas faite. Aurèle se recula d'un pas avant de lâcher dans un souffle.
Je n'ai pas couché avec ton père.
Qu'est-ce que tu en penses, Léonie ? Elle dit la vérité ? Léonie haussa les épaules. Si je te dis ce que je pense vraiment, tu vas croire que je crève de jalousie. Elle ment, c'est ça? Eh bien, faisons semblant de la croire. Nous avons vraiment besoin d'elle.